Estive.
Estive.
Voyage au cœur de la culture pastorale des Alpes. Une émission proposée par la Maison du Berger.
Estive. À la veille de l'été 2015, du côté de Die, dans la Drôme, on fête la transhumance. 25 années d'existence ont fait de ce rendez-vous un événement populaire, l'occasion pour ceux du pastoralisme, comme pour ceux de l'ici et de l'ailleurs, de se rencontrer, d'échanger. Ce jour-là, à l'aube de l'été 2015, devant l'office de tourisme du pays d'Iwa, on érige la statue de la brebis à la valise. Au-dessous, on inaugure une plaque sur laquelle est inscrite « Honneur aux étrangers ». Transhumance, irrésistible appel à se mettre en marche, qui nous atteint au plus profond de notre mémoire. Gens de la Terre, n'avons-nous pas tous été bergers ? Cette citation est signée André Pitt. Ce jour-là, au matin de l'été 2015, on se rappelle André Pitt, disparu presque 10 ans plus tôt. André Pitt, père de la fête de la transhumance. Père de la fête de la Clairette, père d'une famille de 6 enfants, d'une revue intitulée L'Alpe, des éditions La Manufacture et des éditions Adi, passeur de mémoire et tisseur de liens. Parce qu'ils sont nombreux à affirmer qu'André Pitt a largement contribué à faire reconnaître le pastoralisme comme élément à part entière du patrimoine local, ce numéro d'Estive lui est dédié. Pour faire le portrait d'André Pitt, peindre d'abord un paysage avec beaucoup de relief. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour ce drôle d'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un village ou en alpage. Et écouter les paroles de deux de ses collègues et amis, Bruno de Boisgelin et Pascal Cobert.
André, c'est une rencontre qui remonte dans les années 1982-83. J'étais à l'époque associé avec deux autres collègues, nous étions bergers. Nous avions des chèvres et un troupeau de chèvres et de moutons. Et un jour, en hiver, j'ai vu arriver André, qui est venu comme ça, dans notre ferme en haut, dans la montagne, voir un peu ce qui s'y faisait, parce que c'était une ferme où il n'y avait eu personne. Et puis là, on avait dit qu'il y avait des jeunes qui s'étaient installés, donc il est venu, ça a été notre première rencontre, voilà. Et après, on a sympathisé, et moi, quand j'ai cessé mon activité agricole, je suis allé sur Die, et je trouve que j'ai habité la maison en face de la sienne, donc on était très proches, oui, on se voyait très souvent, et on a partagé beaucoup de bons moments. C'est un homme qui était curieux de tout, donc il s'est intéressé au pastoralisme, mais pas qu'au pastoralisme, il s'est intéressé au patrimoine d'une manière générale. C'était un homme qui était à multifacette, qui était aussi bien manuel qu'intellectuel. C'est quelqu'un qui a touché à plein de choses et qui était un passionné de la vie, qui se donnait complètement à fond dans tout ce qu'il entreprenait, et quelle que soit la chose qu'il ait entreprise. Donc le pastoralisme, c'est sûr que ça a été un élément fort de sa vie, mais il a laissé des traces partout où il est passé, et je crois que beaucoup de choses qui existent aujourd'hui dans le Diwa, et a dit plus précisément dans ces structures par exemple culturelles qui existent, André a été bien présent et parfois initiateur, créateur, et parfois un simple participant mais actif dans beaucoup de choses et de structures qui existent aujourd'hui à Die.
Ah!
Je me souviens très bien du démarrage de l'Alpe. C'était à une époque, André était employé au parc du Vercors et au musée dauphinois. Enfin, plus exactement au musée dauphinois, mais il a aussi été un peu au parc du Vercors. Et c'est à travers ces occupations-là qu'est venue l'idée de l'Alpe. Il a fait l'Alpe, mais il a fait aussi beaucoup de livres. Il y a eu l'homme et le mouton, il y a eu l'homme et le taureau, il y a eu l'homme. Enfin voilà, il a fait des séries de bouquins de ce type-là. Voilà. Et puis l'Alpe, bien sûr, c'est une. Ça, c'est un peu son bébé, quoi. Voilà, c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Et c'est vrai que c'est une belle revue.
André a toujours eu ce rêve de créer une revue qui soit pas seulement une revue touristique, mais une revue consacrée au patrimoine et aux cultures alpines, parce qu'il était passionné par ça. Et ce tous azimuts, c'est-à-dire pas seulement la culture, mais la géographie, l'histoire, l'ethnologie, etc. La première rencontre date de quelques années auparavant. J'étais secrétaire général des rédactions chez Glénat et André était éditeur indépendant, directeur de collection plus exactement. Et j'ai dû le croiser évidemment dans les bureaux de chez Glénat. Et puis j'ai tout de suite été surpris par la jovialité de ce garçon qui était toujours très... très entreprenant, très rigolo, très, très souriant, très ouvert aux autres, alors qu'on ne se voyait quasiment pas, quoi. Et puis le projet L'Alpe est né à peu près 2 ans après. Donc là, effectivement, on a commencé à collaborer de façon plus étroite et directe avec lui, et ça, c'était un vrai bonheur, quoi. Donc autant aujourd'hui, on est un petit peu centré sur presque l'urgence, enfin, toujours le nez dans le guidon puisqu'il n'est pas là, qu'on n'a pas réussi réellement à le remplacer, même si la revue continue à exister 10 ans après sa disparition. Autant lui travaillait très en amont, alors il pouvait travailler sur des numéros qui étaient publiés 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et lui, il avait cette capacité-là. Comme il n'était pas, lui, il naît dans le guidon avec la fabrication, la réception des textes, les commandes auprès des auteurs, etc. Et puis tout le reste, hein, tout ce qui est maquette, mise en page. Donc il se promenait, en fait, il tatinabulait comme ça à droite à gauche et puis il nous trouvait des idées de sujets qui étaient souvent étonnantes, quoi. Pour faire un sujet sur les toits, sur les toitures, par exemple, toiture des Alpes. Enfin, qui aurait l'idée de monter un sujet sur les toitures des Alpes? Et pourtant, il y a plein de choses à dire sur les toitures des Alpes. Enfin, puis il était souvent aussi sur le terrain, chose que nous, hélas, on n'a plus trop le temps de faire. Mais il était sur le terrain, donc aussi bien, je sais pas, dans un agro-pastoralisme au Val d'Ost pour rencontrer un vigneron, que dans les Alpes du Sud pour goûter la socca. Enfin bon, c'est quelqu'un. Bon, il était évidemment passionné de gastronomie, très très sensible à la démarche de slow food, mouvement qui a été créé en italien par Carlo Petrini, un peu en opposition évidemment à fast food, pour la préservation de ces produits du terroir qui ont vocation hélas à disparaître pour nombre d'entre eux.
Donc il y avait vraiment cet aspect du vivre bien et du vivre ensemble et de partager de la bonne nourriture, partager les bonnes choses. Slow food quand même a dit, ça rassemblait plus de 80 personnes et qui se retrouvaient une fois par mois autour d'un produit qu'on choisissait, qu'on déterminait. On mangeait ensemble, on parlait de ce produit, de comment il se faisait. On a fait là aussi des rencontres importantes. Et je pense que ce qu'on pouvait apprécier dans ces moments-là, c'est que ces lieux-là rassemblaient des gens extrêmement divers, des gens d'horizons sociaux différents, des gens avec des idées politiques différentes. Et on passait tous des moments formidables. Je me rappelle de quelques temps avant les élections municipales de je ne sais plus quelle année, où on s'est fait la réflexion un soir d'un repas slow food où dans cette salle étaient réunis des représentants de toutes les listes en présence et tout le monde partageait des choses et se retrouvait autour du produit qu'on avait décidé de fêter ce jour-là, quoi.
C'est quelqu'un qui a eu 10 000 vies. Il est hélas parti trop tôt. Il avait 63 ans lorsqu'il est parti, ou 62 ans, je ne sais plus. Quand il a disparu, c'était vraiment une catastrophe totale pour nous, parce que c'était vraiment l'âme de cette revue. Et je crois d'ailleurs que les premiers mots que j'ai eus pour dire la disparition d'André à ses amis, à ses proches, au réseau, c'est de dire qu'un, je ne sais plus quelle était la formule exacte, mais un colporteur d'humanité ou un colporteur d'âme nous a quittés, parce que c'était ça, quoi. C'était cet homme-là avait été apiculteur, éditeur, il avait voyagé énormément, il rêvait de faire un grand tour de la Méditerranée. Enfin, il avait tout un tas de. Rien ne le passionnait pas. en fait. Et il avait aussi cette empathie naturelle avec les hommes que peu de gens ont à ce point, qui fait qu'en fait, il était copain avec tout le monde, aussi bien le charcutier du coin qu'un grand ponte de l'université ou un directeur de France Culture. Il avait monté de la fête de la transhumance à Die. Enfin, c'est quelqu'un qui était vraiment ouvert à tout.
Je peux raconter simplement les débuts de la fête de la transhumance. Moi, à l'époque, j'étais adjoint aux affaires culturelles à Die, et un dimanche soir, sur le coup de minuit, 1h du matin, j'ai entendu frapper au carreau de ma fenêtre et je me suis avancé et j'ai reconnu André qui m'a dit « il faut que je te voie tout de suite ». Donc j'ai ouvert la porte et il m'a dit « voilà, avec Elisabeth, on revient de la transhumance des vaches en Aubrac, et ben on va faire la transhumance des brebis à Die l'année prochaine ». Alors je lui dis « ça ne fait rien, on en parlera demain matin ». Mais bon. Et le lendemain matin, il est arrivé, il avait déjà... son programme de fait, c'était un homme qui avançait plus vite que son ombre.
Il a ramené des Indiens navarros à Die pour sa fête de la transhumance. Il avait des paysans kazakhs. Il avait ramené des pasteurs du Maghreb. Il avait cette énorme banderole à l'entrée de la fête de la transhumance qui disait « Honneur aux étrangers ». Parce que c'était d'abord un homme de dialogue, de passage, de transfert d'idées, de compétences, c'était un trublion en fait.
Quand on avait mis, c'est à son initiative, cette banderole à toutes les fêtes de la transhumance, honneur aux étrangers, c'était bien toute cette idée qu'il a voulu véhiculer, c'est-à-dire de sortir de soi-même pour aller vers l'autre. Transhumer, c'est ça, quitter son pays pour aller vers un autre pays. Et bien cette idée de la fête de la transhumance, André, c'était ça, c'était accueillir d'autres personnes. Et on a accueilli des gens extraordinaires de nations diverses.
Il est né à Paris, il avait des parents d'origine mi-alsacienne, mi-bretonne. Et donc, par exemple, mon fils aujourd'hui vient de passer son bac boulangerie et il faisait des batailles de kouglof avec André. André, donc de ses racines alsaciennes, avait ramené le kouglof. Mais de ses racines bretonnes, il avait inventé une autre recette du kouglof, mi-beurre salé, mi-beurre normal. Donc il faisait un kouglof absolument étonnant, et quand on allait chez André ou quand André venait chez nous, et Tom, mon petit, qui est aujourd'hui boulanger, avait, je sais pas, 6 ou 7 ans, il faisait des concours de kouglof tous les deux. Quand je disais tout à l'heure colporteur d'humanité, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait se retrouver ensemble et sur des projets communs, un Breton et un Alsacien, quand on vit à Die. Et ben c'est un peu ça, donc on fait un kouglof et on met du beurre salé dedans.
Voilà, c'est un passeur d'idées, en fait. Voilà, André, c'est ça, c'est un passeur d'idées. Et puis, c'est un actif aussi, c'est-à-dire que ses idées, il les mettait en pratique. Il avait d'ailleurs cette formule, c'est pas le tout de dire des conneries, mais il faut les faire. Et c'est vrai que c'était un homme qui était dans le faire, dans l'agir, quoi. Il agissait vite et bien, et puis il avait plein d'idées, quoi, qu'il mettait en pratique tout de suite.
J'ai un ami qui avait une formule sur la curiosité, il disait « La curiosité, c'est la forme brute de la créativité ». Ça correspond exactement à ce qu'était André, en fait. Ce bouillonnement, cette ouverture tout le temps qui fait que, à un moment, oui, les choses se rassemblent et forment un tout cohérent, parce que c'est pas le tout d'avoir 50 000 idées. Après, il faut remettre tout ça en place, ensemble.
Il y a un des membres de notre association qui l'appelait le créateur, et je trouve que ce surnom lui allait très bien. C'était un créateur et quelqu'un qui avait une idée toutes les 30 secondes et qui a réussi à faire quand même beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour le Diois. C'était aussi un entrepreneur. C'est lui qui il a restauré toute une rue, il a reconstruit des maisons. C'est lui qui était formateur aussi au Greta autour de la chaux, des crépis à la chaux et de tout ça. C'est quelqu'un qui était multifacette, comme je le disais.
Par exemple, il était passionné d'astrologie, mais avec un regard pas du tout, c'est pas l'horoscope, il avait une vraie curiosité pour ça. Alors que moi, quand je l'entendais parler de ça, pour moi c'était surréaliste, quoi.
André, c'était quelqu'un qui était très marqué par le spirituel. Il était, c'était un lecteur assidu des Écritures. Il était dans une spiritualité qui était la sienne, qui va d'ailleurs bien au-delà de la religion, mais qui est C'était un homme de symbole, un homme qui attachait beaucoup d'importance à toutes ces questions-là. Quelqu'un qui pensait que l'esprit était agissant autour de nous. L'esprit au grand sens large du terme, hein, je ne veux pas enfermer ça dans une religion quelconque ou dans une idéologie quelconque, c'est l'esprit au sens large du terme.
Alors je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais peut-être, en tout cas s'il existe quelque chose après, peut-être André est-il toujours là-haut en train de boire des coups à notre santé et de se dire « ouais c'est bien, faites comme ça les petits gars, les petites filles, c'est ça qu'il faut faire ». Et peut-être nous aspirer des choses, je l'espère en tout cas.
Il n'y a pas de nostalgie, ni de tristesse même, parce que, bon, voilà, c'est la vie, hein. On vit, on meurt, mais il y a la pensée, il y a tout ça qui reste dans ce que l'on a pu partager, tous ces bons moments, toutes ces choses-là, et bien ça fait maintenant, en tous les cas, partie de moi, quoi. On vit avec.
Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans le paysage, et quand il est entré, en dessiner les contours avec le pinceau. Puis se remémorer les souvenirs, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau.
Estive. Voyage au cœur de la culture pastorale des Alpes. Une émission proposée par la Maison du Berger.
Estive.